Bonjour, je souhaiterais vous présenter aujourd'hui un ouvrage tout à fait original et extrêmement érudit, intitulé « Musique interdite, les compositeurs juifs persécutés par les nazis ». Il est l'œuvre de Michael Haas. Michael Haas, né aux États-Unis, grandi entre Caroline du Nord et Vienne en Autriche, musicologue, producteur, travaillé avec les plus grands chefs et interprètes du répertoire classique pendant les 23 ans qu'il a passé chez Decca et Sony Classical à Londres. En 1990, il est à l'initiative d'une série de CD multiprimés intitulée Entartet Musik, donc musique dégénérée, qui redonne vie aux œuvres des compositeurs catalogués comme, entre guillemets, dégénérés sous le Troisième Reich. Il a été conservateur musical du Musée juif de Vienne entre 2002 et 2010, où il a organisé plusieurs expositions sur ce sujet. Il a aussi dirigé le Jewish Music Institute à l'Université de Londres pendant 15 ans. Il est cofondateur du centre Exil Arte, dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de l'émission. Et il est rattaché depuis 2016 à l'Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. Actuellement, il poursuit ses recherches. L'ouvrage « Musique interdite, les compositeurs juifs persécutés par les nazis » a été publié aux éditions Notes de nuit, traduit de l'anglais par Blandine Longre, avec le concours d'Elisabeth Willens pour les textes originaux en allemand. Alors, il s'agit évidemment d'un chapitre méconnu de l'histoire contemporaine que ce musicologue, Michael Haas, étudie avec, je le souligne encore, une grande érudition dans son ouvrage. Il consacre une très large partie de ce livre à examiner le contexte ayant conduit à la fin du XIXe et jusqu'au début du XXe aux persécutions contre les musiciens juifs, allemands et autrichiens. On mesure le rôle joué par Richard Wagner, qui, du fait de la place qu'il occupe dans le domaine musical, a été prépondérant, inspirant une large part de l'antisémitisme nazi. Il en va pareillement de son ami et beau-père Franz Liszt. Toute cette partie, essentielle pour comprendre la tragédie ultérieure, est également intéressante en ce qu'elle restitue admirablement tout un pan de l'histoire de la musique, avec ses nombreux compositeurs juifs, Meyerbeer, Offenbach en français, Mahler et bien sûr Mendelssohn, mais également Brahms, le libéral, Hans Lick, à la fois musicien et critique, et aussi l'importance de la revue de référence, la Neue Freie Presse, la Nouvelle Presse Libre, composée majoritairement de journalistes juifs. Michael Haas aborde ensuite sur un plan plus technique, important dans la justification argumentaire nazie, l'expressionnisme, la musique atonale au détour de la Première Guerre mondiale, puis le sérialisme, la musique dodécaphoniste, et enfin la nouvelle objectivité, un système diatonique en réaction, évidemment, à l'expressionnisme. Le dualisme entre les anti-romantiques comme Hans Gall et Egon Welesch et les romantiques résolus comme Julius Korngold, ainsi que le rôle central du gendre de Wagner, Houston Stuart Chamberlain, dont le livre « La jeunesse du XIXe siècle » servira de référence au dogme racial du national-socialisme, constitue également un soubassement essentiel dans la mise en place des politiques musicales dans l'Allemagne hitlérienne des années 30. Michael Haas étudie, dans la dernière partie de son livre, les mécanismes de la purge, les divergences au sein de la hiérarchie nazie, le rôle du célèbre chef d'orchestre Furtwängler, le renvoi des musiciens juifs, puis l'exil, ou pire. Ce livre, fruit d'un travail de recherche considérable, puisé aux meilleures sources, est une première sur un thème, celui des musiciens et des œuvres, et de leurs œuvres, balayées par les vents mauvais des années 30. Et j'ouvrirai cette présentation par un extrait dans l'introduction d'un ouvrage de Heinrich Heine de l'Allemagne. Voici ce qu'il écrit. C'est une chaudière enchantée où s'amalgament les sucs magiques. Et si tu fourres la tête dans l'ouverture, tu verras l'avenir. Tu verras l'avenir de l'Allemagne sous de flottantes figures. Mais ne t'effraie pas si parfois, de ce chaos, des miasmes fatales s'élèvent jusqu'à toi. C'est ainsi que parla Harmonia, et elle sourit d'un étrange sourire. Mais je ne me laissais pas intimider. Plein de curiosité, je me dépêchais de fourrer la tête dans cette terrible ouverture. Ce que j'ai vu, je ne le révélerai pas. J'ai juré de me taire. À peine m'a-t-il permis de dire, ô Dieu, ce que j'ai senti. Je pense encore avec dégoût aux nausées que me donnaient les maudites odeurs de ce maudit avenir. C'était comme un mélange de vieille choucroute et de cuir de Russie. Quelle horreur, ô mon Dieu, que les parfums qui s'élevèrent. C'était comme si l'on eût vidé à la fois les 36 fosses qui forment la Confédération germanique. Donc, voilà un petit peu le ressenti de Heine, le prophète, si on peut dire. Et ceci dans la première moitié du XIXe siècle, dans les années 1830, lorsqu'il écrit ceci. Il faut aussi bien voir la raison pour laquelle « allemand » ne signifie pas « originaire d'Allemagne ». Puisqu'évidemment, aujourd'hui, dans la société fluctuante et mondialisée, je cite Michael Haas, dans laquelle nous vivons, nous supposons que si un individu est né dans l'espace géographique d'un pays appelé Allemagne ou France et qu'il parle la langue que reflète le nom de son pays, alors cet individu est manifestement allemand ou français. Mais à l'époque, l'Allemagne, en tant que lieu, et plus encore l'adjectif allemand, étaient deux choses différentes. Or, c'est justement ce malaise qui entourait la notion même d'être allemand qui a conduit à un grand nombre des horreurs du XXe siècle. Et c'est seulement après la défaite de Hitler en 1945 que le mot allemand en est venu à signifier « originaire d'Allemagne ». En outre, lorsqu'on parle de l'accomplissement allemand, on présume d'ordinaire que celui-ci a eu lieu quelque part dans les régions de l'Allemagne d'aujourd'hui. Il ne nous viendrait probablement jamais à l'esprit que des penseurs, des musiciens, des écrivains, des aventuriers, des politiciens, des artistes allemands aient pu être originaires d'un autre endroit. Que des figures allemandes, aussi emblématiques sur le plan culturel et intellectuel qu'Emmanuel Kant, que Otto Hoffmann, aient pu venir de la Russie actuelle. Sigmund Freud, Franz Kafka, Gustav Mahler, de la République tchèque. Arthur Schopenhauer, Günter Grass ou le physicien Max Born, de Pologne. Theodor Herzl, père du sionisme, de Hongrie, ou encore Walter von der Vogelweide, d'Italie. Cela paraît contradictoire, voire contre nature. Pourquoi des individus aussi éminents se diraient-ils allemands, alors qu'ils sont à l'évidence tous originaires de pays possédant de leur côté un impressionnant héritage culturel? En fait, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Europe germanique n'était pas un seul pays unifié, mais un réseau de fiefs, de principautés, d'évêchés, de royaumes, tous indépendants, qui se déployaient souvent jusque dans des régions avoisinantes. L'Autriche n'était pas non plus la réplique alpine germanophone bien ordonnée qu'on connaît aujourd'hui, mais un empire tentaculaire où vivaient des Slaves, des Italiens, des Hongrois, dirigés par la maison de Habsbourg germanophone. Les germanophones autrichiens formaient une minorité instable. L'allemand était la langue officielle à travers tout l'Empire ou presque, et les Allemands d'Autriche, qu'on appelait des Autrichiens allemands, considéraient qu'ils appartenaient à la vaste nation allemande. La première langue de la plupart des Juifs assimilés d'Autriche, qu'ils vivent en Hongrie ou dans les régions slaves, était l'allemand. Et donc, les idées et les idéaux qui circulaient en Europe à l'époque des Lumières, fin 18e, ont été adaptés par de nombreux notables juifs ashkénazes qui cherchaient à promouvoir les études laïques et l'usage de la langue allemande. Et ils y cherchaient un moyen d'acquérir davantage de mobilité sociale et politique au sein de communautés non-juives plus larges. C'est ce mouvement qu'on a appelé la Haskalah, Pour les juifs éclairés, le ghetto était un lieu dont il fallait s'échapper plutôt que de continuer de le voir comme un refuge face à un monde chrétien hostile. Baruch Spinoza, dès le XVIIe siècle, avait défendu l'idée d'identité laïque pour les juifs. Un siècle après sa mort, Moses Mendelssohn, le grand-père des compositeurs Félix et Fanny Mendelssohn, est considéré comme le fondateur d'un mouvement des Lumières juives qui, dans l'idéal, unirait les juifs du monde au monde qui les entourait. Le fondateur d'un mouvement des Lumières juives qui, dans l'idéal, unirait les juifs au monde qui les entourait en bâtissant des ponts linguistiques entre la langue liturgique des Hébreux et la langue laïque des Allemands, tout en marginalisant le yiddish, la langue commune de la majorité des juifs allemands de l'époque. En d'autres termes, si les juifs commençaient à jeter des ponts vers le monde extérieur, celui-ci réagirait favorablement en jetant à son tour des ponts dans leur direction. Pour nombre de juifs, l'assimilation musicale, à la différence de l'assimilation sociale, devient le récit d'une assimilation double, voire multiple. Le musicien, ou le compositeur juif, est alors accepté en tant que citoyen à part entière, et peut à partir de là devenir un partisan actif de la culture allemande. La nation allemande était cependant divisée en deux États, avec d'un côté un pays monolingue, consolidé, et de l'autre un pays multilingue dans cet empire austro-hongrois. La culture allemande se tournait-elle vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? Et quelle fut la conséquence de cet octroi du droit de vote aux juifs autrichiens 1867, tandis que dans le même temps, on niait à tous les germanophones autrichiens, juifs compris, le droit de citoyenneté dans un État spécifiquement allemand. On trouverait une réponse partielle à la manière dont cette question va évoluer au cours du demi-siècle qui suit, dans les titres respectifs de deux ouvrages du violoniste virtuose Bronislav Huberman, un juif originaire de la province polonaise de Galicie, appartenant à l'Autriche. Premier ouvrage, Mein Weg zu Paneuropa, Mon chemin vers la Paneurope, publié en 1925, et Vaterland Europa, Patrie Europe, écrit en 1932, alors même que la terreur nazie s'apprête à se déchaîner. Ces deux ouvrages abordent tous les deux des dilemmes de ce genre. Je rajoute pour la petite ou même pour la grande histoire que Bronisław Huberman est ce violoniste qui émigrera très vite à l'arrivée du nazisme au pouvoir en Palestine et qu'il va organiser la venue dans cette même Palestine d'amis et confrères musiciens d'Europe, juifs, eux-mêmes dans le viseur évidemment des nazis, et qu'il fondera le premier orchestre symphonique de Palestine en 1936 avec ce concert mémorable qui sera dirigé rien moins que par Arturo Toscanini. Et l'adjectif allemand demeure évidemment pertinent sous cette double monarchie. Et pourtant, même encore aujourd'hui, ce que désignait austro-allemand par opposition à allemand du Reich, terme qui était en plus doublé par celui de prussien, prête à confusion. Les Autrichiens slaves étaient si nombreux qu'on en vient à qualifier officiellement d'Autrichiens allemands, des Deutsch-Österreicher, tous les germanophones autrichiens. Il faut aussi rappeler que l'allemand demeure la langue officielle de la partie autrichienne de la monarchie. Les juifs autrichiens originaires de régions non germanophones de l'Est sont confrontés à un double processus d'assimilation. Il aura fallu d'abord devenir des Autrichiens, et puis ensuite des Autrichiens allemands. Alors, la langue de l'assimilation, ce fameux journal que j'ai évoqué au début de cette émission, la Neue Freie Presse, dont Julius Korngold était le critique musical. Korngold avait pris la succession de Eduard Hanslick. La Neue Freie Presse était le plus important journal viennois. le 20 décembre 1927, la même année où l'écrivain journaliste Josef Roth publie son essai « Juif en errance », la Neue Freie Presse fait paraître en première page un article célébrant 60 ans de libéralisme. Non seulement on y trouve une exposition des processus historiques et politiques ayant mené à l'une des constitutions européennes les plus inclusives et de grande envergure de l'époque, mais on y perçoit aussi, comme dans l'essai de Roth, la montée en puissance de forces réactionnaires dans les années précédant l'avènement du national-socialisme. Juifs en errance de Roth s'efforce de composer avec une évolution que son auteur jugeait inévitable. Le journal Neue Freie Presse avait été fondé en 1864 par les journalistes juifs Max Friedländer et Adolf Werthner, publié et dirigé à partir de 1979 par deux autres juifs, Eduard Bacher et Moritz Benedikt. Benedikt était d'ailleurs le seul journaliste que l'empereur François-Joseph acceptait de rencontrer. Cette Neue Freie Presse devient le premier quotidien de langue allemande à proposer une perspective laïque et libérale sur le plan politique et va s'imposer comme l'un des principaux journaux publiés en allemand. Le fondateur du sionisme moderne, Theodor Herzl, en est le rédacteur culturel et Eduard Hanslick, la bête noire juive préférée de Richard Wagner et professeur d'esthétique à l'université de Vienne, est son principal critique musical. Je vais donc surtout m'attarder sur cette première période, plus que sur le sort des écrivains juifs pendant la Shoah, parce que c'est justement par cette analyse extrêmement fouillée et détaillée de son ouvrage, dont je rappelle le titre, « Musique interdite, les compositeurs juifs persécutés par les nazis » de Michael Haas, édition Note de nuit. Donc dans cette longue exposition de comment on en est arrivé là, que cet ouvrage nous interpelle et nous intéresse particulièrement. Il faut bien considérer que la métropole de Vienne était la ville de la musique, ça tout le monde le sait, et la ville des Juifs. Durant la première décennie du XXe siècle, environ un tiers des élèves qui étudiaient le violon et le piano au conservatoire de Vienne étaient Juifs. Une proportion évidemment remarquable, même si l'on sait que beaucoup d'entre eux venaient des confins de l'Empire. En fait, à Vienne, la population juive n'avait jamais dépassé les 8%. Il était en effet extrêmement courant pour les Juifs d'essayer de se faire une place dans les conservatoires des grandes villes. On trouve à ce sujet des satires publiées justement dans la Neue Freie Presse. Et pourtant, dans la bonne société viennoise du XIXe siècle, les structures sociales étaient par nature ouvertes à l'assimilation musicale juive. Et adhérer à une institution ou une société musicale offrait un accès à une intégration sociale et politique qui n'était pas possible par le biais d'autres corporations ou confréries. Le seul fait que Anton Rubinstein, un juif russe, puis être nommé directeur artistique de la Société philharmonique de Vienne en 1871, est une preuve assez remarquable de la rapidité de cette intégration culturelle, écrit Michael Haas. En 1900, l'atmosphère sociale et culturelle s'est tellement améliorée pour les Juifs que, selon le chef d'orchestre universitaire américain Léon Botstein, le concert donné en 1900 au Musikverein en mémoire du compositeur liturgique juif Salomon Zoltzer, fut un moment clé, symbole de cette transition. Zoltzer avait été un réformateur, avait été le chazan principal de la plus importante synagogue de Vienne, Stadttempel. Il était arrivé de l'Autriche de l'Ouest, en 1825, alors que Beethoven et Schubert étaient encore en vie. Son recueil d'œuvres liturgiques Shir Zion, le chant de Sion, d'abord publié en 1840, puis réimprimé en 1868, témoigne de l'influence sensible de la musique séculière de l'époque et fait de Zoltzer l'un des premiers modernisateurs de la musique synagogale. Il était de surcroît un professeur respecté au Conservatoire de Vienne. Parmi les musiciens participant au concert commémoratif se trouvait son fils, Joseph Zoltzer, viennois de naissance, qui était violoncelliste solo de l'Orchestre philharmonique, mais aussi ancien violoncelliste de quatuor extrêmement prestigieux de l'époque. Il était accompagné au piano de Heinrich Schenker, un théoricien de la musique de renom, et le discours en hommage à Salomon Zoltzer fut prononcé par Adolf Ritter von Sonnenthal, le comédien le plus fameux de Vienne et l'une des célébrités de la ville, l'un des premiers juifs à être anobli par l'empereur à la suite de la promulgation de la Constitution de décembre. Ceci étant, la Neue Freie Presse offre une série d'essais et d'articles qui analysent la nature de l'antisémitisme, article écrit par Theodor Haase en 1887. Anatole France traitera de nouveau ce sujet le 3 avril 1904. La Vienne de 1900 était un lieu où les Juifs avaient la possibilité de vivre, de travailler ouvertement, dans la plupart des cercles de la bonne société. Mais cette ville, qui comptait la plus nombreuse population juive d'Europe après Varsovie, devait aussi faire face à un antisémitisme profondément enraciné et omniprésent. Le fait que Mahler aurait refusé de prendre Leo Blech, élève de Humperdinck, comme deuxième assistant, en dit long, Mahler avait le sentiment que l'institution n'aurait pu tolérer la présence d'un second juif, lui-même étant le premier, même converti. En réalité, ce n'était pas seulement à Vienne, mais à travers l'Europe entière, que l'antisémitisme façonnait l'environnement social, ainsi qu'en témoigna l'affaire Dreyfus en France. Toutefois, dans le domaine musical, Wagner avait libéré une sorte de monstre, et Vienne, avec la musique comme centre de gravité culturelle et son importante population juive, était extrêmement vulnérable. Voilà un petit peu pour les prémices de ce qui va aboutir à ce que l'on sait. Suit toute une série de chapitres absolument passionnants sur Wagner et les compositeurs juifs au XIXe siècle, l'héritage politique et culturel de Wagner, puis l'ère du libéralisme avec Brahms et son chroniqueur Hans Lick, suit ensuite Mahler et Korngold, son chroniqueur qui prendra la relève de Hans Lick, suivent tous les mouvements musicaux de la fin de siècle, le Jugendstil de Schönberg, Schrecker, Zemlinsky et Weigel, puis la migration musicale suite à la Première Guerre mondiale, les cabarets berlinois, bien entendu. Et nous allons arriver, en fait, que assez tardivement, aux alentours de la page 200, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. J'aimerais rendre évidemment hommage à ces compositeurs qui ont été persécutés, ceux qui n'ont pas eu le loisir de pouvoir s'enfuir, d'arriver jusqu'aux États-Unis, et qui ont été internés dans un premier temps donc à Theresienstadt en allemand, puis déportés tous à Auschwitz. Et donc cette musique des camps, dont Victor Ullmann est un des représentants, il écrit de la musique, mais il écrit aussi un essai intitulé « Goethe und Ghetto ». Ce Thérésine, prétendument ghetto modèle, situé au nord-ouest de Prague, est conçu pour montrer aux dignitaires en visite, et à la Croix-Rouge en particulier, que les Juifs étaient bien traités. Voici ce qu'il écrit. Voici ce que Victor Ullmann, ce musicien assassiné à Auschwitz, écrit. « Theresienstadt fut et reste pour moi l'école de la forme. Autrefois, alors qu'on ne ressentait pas la violence et le poids de la vie matérielle, car le confort, cette magie de la civilisation les faisait oublier, il était facile de créer une forme exprimant la beauté. Ici, même dans la vie quotidienne, on doit triompher de la matière par la forme. Tout ce qui est artistique se trouve en complète contradiction avec ce qui nous entoure. Il me faut toutefois souligner que Theresienstadt n'a pas été un frein à mon travail musical, il l'a favorisé, que nous ne nous sommes pas simplement restés assis sur les bords des fleuves de Babylone à nous lamenter, et que notre soif de culture était en adéquation avec notre soif de vie. Et je suis persuadée que tous ceux qui se sont efforcés, dans la vie comme dans l'art, d'arracher une forme à la matière récalcitrante, me donneront raison. » Fin de citation. Donc l'adversité, un environnement éprouvant, hein, semble avoir été des catalyseurs pour la création artistique. Pavel Haas, Gidon Klein, Hans Krasa et Victor Hollmann, compositeurs importants, détenus à Theresienstadt, sont maintenant bien connus. Leurs œuvres sont régulièrement présentes dans les répertoires des salles de concert. Avant leur internement, tous étaient en passe de devenir des musiciens établis, peut-être à l'exception de Klein qui était encore très jeune. Quoi qu'il en soit, une œuvre hautement symbolique, écrit Michael Haas, composée à Theresienstadt, a fait la preuve de l'inhumanité de l'homme et de la créativité indéniable qu'elle est capable d'engendrer. Der Kaiser von Atlantis, l'empereur d'Atlantis, de Victor Ullmann, sur un libretto du jeune peintre et poète Peter ou Petr Kien, est considéré comme un chef-d'œuvre indépendamment du lieu où il a été créé. Le titre alternatif, Le refus de la mort, Die Todverweigerung, renvoie à une intrigue simple, la mort surmenée à cause du mégalomaniaque empereur Overall, décide de se mettre en grève. Il s'agit bien sûr d'une satire évidente, mais bien sûr risquée, des ambitions hitlériennes. Le message d'Ullmann est néanmoins le suivant. L'absence de mort est la seule chose qui doit être redoutée. Un message moral qui va plus loin quand l'empereur Overall accepte d'être le premier à mourir afin que la mort puisse reprendre le travail de cette façon racheter ce qui semble de prime abord sans rachat possible. Donner corps à cette idée dans une situation où la mort est omniprésente, certains passages du livret ont été écrits au verso de listes de déportés pour Auschwitz, paraît assez extraordinaire. Aucune représentation n'a pu être montée, évidemment, à Theresienstadt, ce qui ne surprendra pas. J'aimerais donc, pour clore cette émission, vous faire entendre quelques notes d'une sonate pour piano de Victor Ullmann. C'était la présentation d'un ouvrage intitulé « Musique interdite, les compositeurs juifs persécutés par les nazis », dont l'auteur est Michael Haas, les traductions de l'anglais Blandine Longre, de l'allemand Elisabeth Willens, aux éditions Notes de Nuit. Du bist betrunken, ich seh's an deinem Schatten, an diesem Taumelschatten, der sich so toll gebärdet. Was käme aus dem Tollhaus? Hei, welch verrückter Schatten im allzu hellen Mondschein. Und das bitt sich und stolpert hin und reckt sich aufwärts und nach den Seiten. Ei, das groteske Schatten! Mich so leimer, beschwor ich sei betrunken. Jetzt muss ich's wahrlich glauben. Ich bin ein Würdeloser, ein Allermutbarer, ein ganz betrunkener Trinker. Mit einem Taumelschatten im Diskret. Thank you.
Yeah.